Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples en leur disant « Allez au mont village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt on les laissera partir. »
Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à Sion, la fille, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule entendirent, étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches aux arbres et étendirent sur le chemin. Et les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts !» Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait « Mais qui est celui-ci ? » Et les foules répondaient, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée !» Jésus entra dans le temple. Et là, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les scribes, les principaux sacrificateurs, furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Mais entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré tes louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit, « Qu'aucun fruit ne naisse plus jamais de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, « Mais comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un texte qui raconte un des climax, un des sommets du récit de l'évangile de Matthieu. On attend ce moment-là depuis le début. Jésus part de la Galilée tout en haut, là-haut, là-haut. Et Matthieu a agencé son récit pour nous montrer tout ce voyage qui descend jusqu'à la capitale. Donc, on attend ce moment où Jésus va entrer à Jérusalem avec impatience. Et Jésus nous a intrigués. Parce qu'il en a fait des choses merveilleuses pendant tout ce trajet. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y avait un guéri, un démoniaque libéré, qu'est-ce que demandait Jésus ? Qu'est-ce qu'il demandait ? Il faisait « Chut, n'en parle pas, ne le dis pas ». Il performait des miracles, il guérissait des gens, il donnait des enseignements étonnants, mais il s'approchait de la capitale sous les radars. Et là, changement de plan. On y va en grande pompe. En grande pompe. Déjà, il a chronométré, timé son arrivée à Jérusalem. Il arrive, c'est la fête des pains sans levain. La capitale a Une population qui est multipliée par 4 peut-être. De tous les pèlerins qui viennent, dans une semaine, c'est la Pâque. Et bon nombre de Juifs font le voyage jusqu'à la capitale. Et donc, vous imaginez cette colline de Jérusalem entourée tout autour d'un grand campement provisoire de tentes, avec des centaines de milliers de personnes qui sont là. Et ces centaines de milliers de personnes ne viennent pas du coin, viennent de loin. Et ce sont eux les plus qui ont entendu parler de Jésus. Et c'est pour ça que quand Jésus arrive dans la ville, on a ce contraste entre la ville qui est en émoi, dit ma Bible, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction, pour le verset 10, mais la capitale ne comprend pas ce qui se passe. Alors que la foule qui escorte Jésus, elle, comprend ce qui se passe. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ils le connaissent. Mais les bons Jérusalémites, eux, non. Contraste. Et Jésus a tout planifié. A tout planifié avec son père, son collaborateur direct. Et tout est prêt. Il y a des mots de passe, des mots-clés. Allez, cherchez l'annon. Et puis alors, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites, le Seigneur en a besoin. Ah oui, le Seigneur en a besoin. Et hop, ils laisseront passer l'annon. Et c'est ce qui se passe. Les disciples ne comprennent pas. Jésus n'a jamais demandé à être sur une monture. C'est la première fois de sa vie. Il marche toujours à pied. Mais qu'est-il en train de faire? Ils sont sur le mont des Oliviers. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Jérusalem. Il y a le mont des Oliviers, cette vallée du Cédron, avec tout un tas de tombes. C'est un grand cimetière juif. Et ça remonte de l'autre côté. Et là, en face, vous avez le temple. Vous avez le mur d'enceinte. Et juste derrière, on voit le dôme du roc aujourd'hui. La mosquée qui a été construite là, mais c'était là qu'il y avait le temple. Donc pile en face. Et est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a déjà fait ce trajet-là, monté sur un âne? Quelqu'un? Oui? Qui? Hein? Toi, tu l'as fait? Tu as fait le trajet sur un âne? C'est classe. Mais dans la Bible, on connaît quelqu'un qui a fait le trajet du mont des Oliviers, enfin presque pas, de la vallée, jusque sur un âne, et qui est rentré à Jérusalem comme ça. Il est même devenu roi. Presque. David est revenu à Jérusalem sur un âne quand Absalom l'avait fait fuir. Mais c'est son fils Salomon, donc le fils de David, a été couronné en montant sur une... Voilà, Absalom était en train... Le premier fils de David était en train de faire un putsch, un coup d'État. Et alors le prophète et puis la mère de Salomon, Bathsheba, sont venus en trompe dans la chambre de David. Mais il était un peu vieux et grabataire à ce moment-là. Et ils lui ont fait comprendre ce qui se passait. Et David a réagi vite en disant, prenez Salomon, prenez ma mule, prenez le prophète, vous allez loindre l'huile et vous allez le faire monter en triomphe à Jérusalem sur ma mule. Et Jésus sait très bien quels sont les symboles qu'il est en train de se réapproprier là, alors qu'il demande à faire le même trajet à un moment où la ville est pleine à craquer de monde. C'est un acte politique. Il évitait d'être reconnu, il évitait que son nom soit propagé, il évitait la notoriété pendant toute sa descente depuis Nazareth jusqu'à Jérusalem. Et là, c'est tout l'inverse. Il orchestre, il met en scène son arrivée à Jérusalem, de sorte que s'accomplissent les prophéties et de sorte que le peuple soit bien conscient de qui il est en train de revendiquer à être. Et donc un roi arrive et il va siéger dans le lieu de pouvoir, nous sommes d'accord. Et quel est le lieu de pouvoir à Jérusalem ? C'est le temple. Alors Jésus arrive dans la ville et aussitôt, où se rend-il ? Au temple. Et là, il fait scandale. Il fait scandale comme un prophète. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu leur demandait des fois de faire des choses un peu loufoques. Ésaïe a dû se balader un peu nu pendant pour montrer en fait comment est-ce que le peuple allait être chassé nu en exil. Osée a dû épouser une prostituée qui l'a trompée, puis aller la rechercher, etc., pour imager en fait la relation entre le peuple et son Dieu. Donc les prophètes avaient des actes comme ça, symboliques, très forts, très provocateurs. Et Jésus rentre dans le temple et il met fin au sacrifice en renversant toutes les tables des changeurs. Mais on y reviendra. Et après ça, il confronte donc les scribes et les sacrificateurs et puis sort de là et donne un troisième signe. Il parle à ce figuier qui n'a pas de figue et il le dessèche pour toujours. Donc trois grands récits, trois grandes étapes qui marquent cette montée à Jérusalem. D'accord ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une pression énorme, une pression spirituelle, un enjeu énorme qui se joue là. Et pour le comprendre, on va aller voir un peu les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, quand il arrive dans le temple, si vous avez des Bibles avec des notes, vous pouvez voir qu'il cite là, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et vous avez une petite note peut-être. Vous allez voir votre note qui vous dit que c'est une citation de Ésaïe 56. Donc on va aller voir Ésaïe 56, 7 pour comprendre. Pourquoi Jésus dit ça à ce moment-là? Alors en Ésaïe 56, 7, je lis Ésaïe 56, hein, le chapitre au début. Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et pratiquez la justice. Car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice sur le point de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui y demeure, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger, ça veut dire le non-juif, qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « Oh, l'Éternel me séparera sûrement de son peuple. » Que l'eunuque ne disent pas « Je ne suis qu'un arbre sec. » Car ainsi parle le Seigneur, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront de m'être agréables et qui demeureront fermes dans mon alliance, je leur donnerai une maison, enfin dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai, ces étrangers, sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur. Une prophétie qui montre comment Dieu, bon, je mets de côté les eunuques, parle de l'accueil des étrangers dans son temple. Comment ils seront les bienvenus et comment leurs offrandes seront les bienvenues. Mais quand Jésus arrive dans le temple, qu'est-ce qu'il voit ? Un grand bureau de change. Parce qu'il ne faudrait pas que ces étrangers, ces juifs qui viennent d'ailleurs, s'autorisent à acheter des sacrifices à Dieu avec de l'argent romain, ou de l'argent phénicien, ou de l'argent... Non, tu veux acheter un sacrifice à Dieu, il faut que tu l'achètes avec de l'or du temple, de l'or pur. Je vous laisse imaginer le taux de change. Et on voit, Jésus renverse les tables des changeurs, il renverse les cages des marchands de pigeons. Mais oui, parce que les gens ne faisaient pas forcément le trajet avec les animaux sous le coude, jusque à Jérusalem, ils prenaient de l'argent, et à Jérusalem, ils achetaient le sacrifice qu'ils allaient faire. Mais, dans quel cas on devait sacrifier des pigeons? Vous savez, dans quel cas on devait sacrifier des pigeons? Si on est pauvre. Donc, quelles sont les deux personnes là, les deux catégories de gens qui sont ciblées par les étrangers et les pauvres? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et là, c'est une autre citation d'un autre prophète, Jérémie, au chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? La parole, je suis au début du chapitre 7, qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Ah, mais c'est le temple, ça tombe bien. Et proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui entrez par ses portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, ah, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas dans ce lieu du sang innocent, et si vous ne ralliez pas à d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire des faux serments, offrir de l'encens au Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Et puis, vous venez vous placer devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, ah, nous sommes délivrés. Mais c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-elle, à vos yeux, une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez plutôt à votre lieu saint, à Silo. Oui, j'en avais fait d'abord ma demeurer mon nom, mais voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté d'Israël. Je m'arrête là. Alors Silo, c'était un premier lieu de culte, en gros, avant que le temple soit construit, notamment durant le ministère de Samuel. Et puis en fait, c'est devenu, à la force des choses, un lieu d'idolâtrie, en fait. Et Dieu n'a eu aucun scrupule à raser et profaner ce lieu afin qu'il soit impur pour toujours. Donc il est en train de dire, vous croyez que c'est parce que c'est ma maison sur laquelle j'ai fait demeurer mon nom que j'aurai des scrupules à la raser? Et là, ce prophète Jérémie a assisté et a participé, en un sens, il a vécu le sac de Jérusalem par les Babyloniens et la déportation première et la déportation deuxième. Et donc la destruction de ce temple. Le temple dans lequel Jésus se tient est le deuxième temple qui a été reconstruit par Esdras et Néhémie après que le premier ait été détruit. Et si vous lisez Ésaïe et Jérémie, ces prophètes-là, vous allez voir dans quelles circonstances il a été détruit. Et étonnamment, Dieu avait prédit qu'il allait revenir voir son deuxième temple. Ça, on peut le lire encore dans un autre prophète qui s'appelle Malachie. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie est intéressant. C'est lui qui annonce la venue de Jean-Baptiste. Et si on va voir Malachie au chapitre 3, vous allez voir que c'est croustillant aussi. Voici que j'enverrai mon messager, donc ça c'est Jean-Baptiste. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance. Dieu entre dans son temple. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui se tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les Lévites. C'est des prêtres, hein, les Lévites. Il les épurera comme on éprouve l'or et l'argent. Et alors, ils seront pour l'Éternel, ceux qui amènent l'offrande avec justice, une offrande agréable de Juda et de Jérusalem. Ce sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes. Je m'approchais de vous pour le jugement et je me hâtais de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui font des faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve, l'orphelin, qui font tort à l'immigrant, qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Donc Dieu annonce qu'il va revenir dans son temple, qu'il va voir comment ça se passe. Et que la dernière fois qu'il est venu, il avait jugé ceux qui oppriment le salarié. Eh oui, Jésus est syndicaliste, non. La veuve et l'orphelin, l'immigrant, etc., etc., etc. Un dernier, parce que c'est trop bien, Michée. On ne lit pas souvent les prophètes, hein, mais il y a des trucs dedans. Alors Michée aussi, il annonce la venue de Dieu. Michée 1, au tout début. Dieu arrive. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet, au temps de Jotham, de Ahaz et de Ézéchias, roi de Juda. Vision sur Samarie et Jérusalem. Donc là, l'exil n'est pas encore prononcé. Hein. Écoutez-vous tous, peuple. Sois attentif, terre, et tout ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui vient dans son temple. Dieu vient dans son temple. Car voici que l'Éternel sort de sa demeure. Et quand Dieu arrive, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre et sous lui les montagnes fondent. Vous imaginez ? Sous lui les montagnes fondent. Les vallées s'entr'ouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui dévale une pente. Pourquoi il vient comme ça? Tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. C'est quoi ces péchés? On va les voir au chapitre 7. Donc le prophète dit, il vient, il essaie de récolter quelque chose, il n'y a rien. Chapitre 7, il dit, « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, mais comme au grappillage après la vendange. » Après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de figue nouvelle que je désire. L'homme loyal a disparu du pays. Il n'y a plus d'homme de droit. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge agit par intérêt. Le grand manifeste lui aussi son avidité. Ils font cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. L'homme de droit pire qu'un buisson d'épines. C'est le jour annoncé par tes sentinelles. Le temps d'intervenir contre toi est arrivé. Et ils sont maintenant dans la confusion. Ne croyez pas un ami, ne croyez pas un intime. Devant celle qui repose dans ton sein, garde les bouches closes, car le fils flétrit le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais Dieu arrive. Voilà les images que Jésus a employées, d'accord ? Il arrive dans le temple et il dit « Ma maison devait être une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Vous croyez que les prêtres qui sont là, ils ne comprennent pas à quoi il fait allusion ? Il fait allusion à des oracles, à des prophéties qui annonçaient la destruction du premier temple. Vous imaginez ? Il vient dans le temple de Dieu et il balance des prophéties qui ont annoncé la destruction du premier temple à cause de l'iniquité du peuple. Pas du peuple, pardon. Des princes qui trahissent, qui dévorent le peuple. Des princes. J'ai pas lu tout dans Michée, mais il y a des textes horribles. Vraiment. Des prophètes qui prophétisent. Enfin, c'est, voilà, je vous lis quand même un truc, c'est Michée 3. Écoutez, chefs de Jacob et les princes de la maison d'Israël, les princes, n'est-ce pas à vous de connaître le droit ? Vous haïssez le bien, vous aimez le mal. Vous leur enlevez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple. Ils lui arrachent la peau, ils lui brisent les os et ils les mettent en morceaux comme ce qu'on cuit dans une marmite, comme de la viande dans un chaudron. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il cachera sa face dans ces temps-là parce qu'ils ont commis de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Alors ils annoncent la paix s'ils ont quelque chose à mordre sous la dent. Et qui publie la guerre contre celui qui ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, plus de vision. Vous aurez les ténèbres, plus de divination. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la moustache, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, dit le prophète, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez ceci, chef de la maison de Jacob, prince de la maison d'Israël, vous qui rendez abominable le droit, vous qui pervertissez toute droiture, vous qui bâtissez Sion, donc la capitale, hein, avec le sang versé, et Jérusalem avec la méchanceté. Ces chefs jugent pour des cadeaux. Si tu me fais un cadeau, je vais rendre justice. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « Mais l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est bien à cause de vous que Sion sera labouré comme un champ. » Des fois, j'aimerais beaucoup que les gens qui disent « Ah oui, non mais la religion... » truc de Dieu là, c'est mal, ça génère. Là. Et s'ils pouvaient lire ces textes, s'ils pouvaient lire ce que Dieu dit à propos de son culte à lui, ils seraient étonnés, je pense. Ils seraient étonnés de la sévérité avec laquelle Dieu condamne. Alors, on a vu à deux reprises, Dieu arrive, Dieu vient dans son temple, hein, et quand il sort de chez lui et qu'il marche sur les montagnes fondent. On a vu en Malachie, il va envoyer Jean-Baptiste pour essayer de faire un chemin, là. Puis quand il va arriver, qui pourra tenir face à ce jour très grand ? D'accord ? Mais est-ce que Dieu est venu dans son temple ? Oui. C'est qui ? Jésus. Mais elle est où toute cette violence qu'on attendait, cette justice-là ? Elle est contenue. Est-ce que Jésus a tout lâché, là ? Il a renversé ce barrage spirituel qui avait été érigé dans ce temple, ces marchands. C'était 30 ans, en moins 30 avant Jésus-Christ, il y avait un prêtre, un grand prêtre, Caïphe. Il a lui-même fait installer ces marchands dans la grande enceinte du temple. Avant, c'était dehors quand même, mais pour attirer le monde et faire plus de bénéfices, en fait, ils les avaient installés vraiment, ils avaient le temple, là, puis il y avait une grande cour, ils les ont mis là, dans la grande cour, les marchands. Et Jésus renverse tout ça. Et alors, on pourrait se dire, ouais, les gens ont dû flipper, parce que Jésus qui prend, dans l'autre récit de Luc, il prend un fouet pour tout ça. Mais est-ce que tout le monde a peur de lui ? Est-ce que tout le monde a peur de lui dans ce récit ? Les enfants sont là, c'est tout ? Est-ce qu'il n'y a que les enfants qui sont là ? Les aveugles et les boiteux s'approchent. Eux, ils voient cette violence-là Comme quoi?
Une libération.
Ils voient cette violence-là comme un justicier qui prend leur cause, leur défense à eux. Et ils saisissent cette occasion inespérée de rentrer dans le temple.
Il est pour nous.
Vous savez ce que ça veut dire, Hosanna? Sauve-nous maintenant!
Et alors les prêtres arrivent et disent, mais alors, fais-les taire! Et Jésus qui dit aux prêtres, hein, vous n'avez pas lu la Bible? Vous n'avez pas lu la Bible? Dommage, parce que c'est marqué, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Jésus arrive dans son temple et il opère cette grande inversion. Ceux qui me louent, sont les petits. Et vous, qui êtes en haut du panier, en fait, c'est vous qui allez être jugés. Alors il sort, il va voir ce figuier et il le maudit. Pourquoi ? On l'a vu dans Michée. Michée sort et il va chercher des fruits. Il n'y a rien. Là aussi, c'est un geste prophétique, symbolique. Cet arbre ne porte aucun fruit, il ne sert à rien. Mais à travers lui, c'est le temple lui-même qui est maudit. Jésus est venu dans ce temple et il n'y a trouvé aucun fruit. Voire même plutôt des fruits amers, des fruits étrangers, des fruits aigres, corrompus. Et alors, on a ce passage mystérieux où ses disciples demandent, mais comment Jésus dit, mais voilà, si vous demandez à cette montagne, et ils sont sur le mont des Oliviers, donc en face de eux, il y a le mont du Temple. Si vous dites à cette montagne de se jeter dans la mer, là, si vous avez la foi comme moi, et je pense qu'on peut le comprendre comme ça, si vous compreniez les choses comme moi, vous comprendriez que, oui, cette montagne-là va disparaître. Et effectivement, les prophètes annonçaient aussi cette destruction. Alors, ce jour des rameaux, vous voyez un peu la pression qu'il y avait derrière ce moment-là, en fait, où Jésus rentre dans ce temple. C'était énorme ce qui était en train de se jouer. Mais si on n'a pas un peu l'arrière-plan avec tous ces prophètes-là, on ne saisit pas bien, en fait. Le temple a été jugé une première fois comme corrompu, il a été reconstruit. 300 ans plus tard, 400 ans plus tard, Dieu revient visiter son temple, et qu'est-ce qu'il voit? La même chose. La même chose. Et pourtant, cette présence, cette venue, cette proclamation, ce témoignage de Jésus, c'est un électrochoc pour ce que la fenêtre durant laquelle ce peuple peut le reconnaître comme Messie est en train de se réduire. La Pâque, c'est dans une semaine. Il ne reste plus longtemps. C'est maintenant qu'il faut reconnaître le Christ. On n'a pas l'habitude de voir ce Jésus justicier. On n'a pas trop l'habitude de voir ce Jésus justicier. On se confronte plus souvent au Jésus, non pas qui vient réclamer justice, faire la justice, mais au Jésus qui vient nous faire grâce. Qui vient nous faire grâce. Et pourtant, n'aspirons-nous pas des fois à ce genre de héros? Bon, il tape personne, hein, Jésus. Il casse. Peut-être c'est de la désobéissance civile. Mais il tape personne, mais il casse. Et il s'expose. Il sait très bien qu'il va en mourir de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Mais il le fait quand même. On a besoin de justiciers comme ça. On a besoin de gens qui prennent notre défense, même s'ils ne vont pas gagner. On a besoin de gens qui se lèvent pour des causes perdues, qui disent la justice, qui dénoncent l'injustice, qui dénoncent les abus. Et Christ n'est pas qu'un Messie qui vient pardonner, il est un Messie qui vient aussi restaurer l'ordre des choses. On le dit dans le credo, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Il est question aussi de justice. Pour certains, ça peut faire peur. Pour d'autres, au contraire, c'est une source d'espérance. Notre Jésus n'est pas que le doux berger qui nous caresse, qui nous rassure et qui nous réconforte. Il est aussi le héros qui vient rétablir toute justice. Et en tant que juste roi, il commence par sa propre maison. Voilà, en ce jour des rameaux, j'espère avoir donné une profondeur à ce hosanna et à ces branches de palmiers agitées. C'est chargé d'espérance, c'est chargé de profondeur. Et il y a encore de la patience de Dieu manifestée, parce que tout ce que mérite ce temple, tout ce que méritent ces prêtres, ils ne l'ont pas reçu au jour où Christ est venu. Ils le recevront bien plus tard. Et vous savez que Jésus, quelque temps après, pleurera sur Jérusalem. Il lui dira précisément: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et pilles les prophètes, si tu connaissais la joie qui t'avait été offerte là, mais cela est caché à tes yeux, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. C'est tragique. 40 ans après, ce temple-là sera détruit. 40 ans après la croix, le temple sera détruit. Voilà, je termine. Confrontons-nous à ce Jésus entier, ce Jésus justicier, mais ce Jésus qui pardonne. Acceptons de vivre sa justice, de la recevoir en même temps que son amour, sa grâce et son pardon. Parce qu'alors, nous participerons et nous rentrerons de plein pied dans le royaume d'espérance de Jésus-Christ. Amen.